Chapitre 3. Quand Évariste et Louise eurent quitté la Bertoche, tout rentra dans le silence autour d'Alexandrine. Madame de Fougerolles comptait avec Madame Ledoux le supplément de dépenses auquel le séjour des deux jeunes gens l'avait entraîné, et y trouvait le sujet de mille récriminations auxquelles, par certaines insinuations qu'elle saisissait au passage, Mademoiselle du Rosier voyait bien qu'elle n'était pas étrangère. Mais les mots perfides et les allusions méchantes glissaient sur elle comme l'eau sur un caillou. Elle avait pris le parti de ne répondre qu'aux attaques directes. Cette impassibilité agit sur la baronne par la durée. Elle avait pu voir que sa nièce était d'un caractère inflexible, et si elle ne l'en aima pas plus, elle l'en estima davantage. En dehors de sa vanité mélangée d'avarice, Madame de Fougerolles était une femme qui avait du mouvement dans l'esprit et quelque instruction. Alexandrine avait beaucoup lu, et son intelligence montrait quelquefois des clartés soudaines qui étonnaient par leur vivacité. Entre ces deux personnes, il y avait donc des points de contact dont la solitude devait développer la secrète affinité. Les soirées qu'on passait au coin du feu furent abrégées par des conversations qui allégeaient le poids des heures. Alexandrine prenait un bon livre et en faisait la lecture à haute voix. On en discutait les passages saillants. D'autres fois, elle jouait sur son piano, qu'elle avait apporté de Moulins, les airs que Madame de Fougerolles préférait, et ce n'était pas, comme on pense, les plus nouveaux. Ces rapports intellectuels firent naître entre la baronne et sa nièce une intimité que Mademoiselle du Rosier se garda bien de laisser aller jusqu'à la familiarité. Si l'une, entraînée par le plaisir inattendu qu'elle trouvait dans ses conversations, oubliait quelquefois la position qu'elle avait faite à Mademoiselle du Rosier, celle-ci rétablissait bien vite la distance qui les séparait et rappelait par quelques mots qu'elle était la protégée et Madame de Fougerolles la protectrice. L'hiver chassa l'automne et les jours froids ramenèrent la baronne à Paris. Déjà, sans que Madame de Fougerolles se l'avouât, Mademoiselle du Rosier lui était devenue, sinon indispensable, du moins utile et agréable. Elle l'emmena donc avec elle et on s'arrêta à Moulins que le temps de voir et d'embrasser Louise. On se souvient de cette Madame Ledoux qui avait si obligeamment offert à Mademoiselle du Rosier de payer la note du parfumeur. Une lettre qu'elle reçut de son pays la força, en lui apprenant la mort d'une sœur qui laissait deux enfants en bas âge, de demander son congé à la baronne peu de jours après leur installation à Paris. Le devoir lui faisait une loi de se consacrer tout entière à ses petits orphelins. « L'ingrate !» s'écria Madame de Fougerolles. Et le compte de Madame Ledoux payé, elle eut l'indélicatesse et la brutalité de faire ouvrir les malles de cette pauvre femme qui depuis 30 ans la servait avec une scrupuleuse fidélité et un infatigable dévouement. Madame Ledoux partit, la maison restait sans intendante et la baronne, qui aimait à se lever tard, avait perdu l'habitude de cette surveillance active qui s'étend aux plus petits détails. Il fallait donc remplacer Madame Ledoux. Mais il répugnait à Madame de Fougerolles de confier les clés de l'office et de la lingerie à une inconnue. Un compromis donna satisfaction à la fois à son désir et à son inquiétude. Mademoiselle du Rosier se chargea provisoirement des fonctions de Madame Ledoux, et Madame de Fougerolles déclara bien haut qu'elle chercherait une personne qui fût digne de sa confiance. Seulement, il était sous-entendu que le provisoire de Mademoiselle du Rosier durerait éternellement, et que Madame de Fougerolles chercherait toujours, sans la trouver jamais, cette personne qu'elle devait mettre à la tête de sa maison. L'économie ne fut d'ailleurs pas le seul bénéfice que Madame de Fougerolles retira de la présence de Mademoiselle du Rosier à Paris. La vue de cette grande et belle fille dans le salon de la baronne apprit aux personnes qui le fréquentaient qu'elle avait recueilli chez elle une nièce de province sans fortune, et cette hospitalité si dignement offerte lui donna un grand renom de générosité. On ne manqua pas de lui en faire compliment, et tous les beaux éloges qu'on lui prodigua dans le cercle de ses amis, elle les reçut avec un air de modestie qui augmenta le mérite de cette belle action. Madame de Fougerolles recevait régulièrement tous les mardis. On jouait au whist et on faisait un peu de musique. Son salon, très exclusif et très froid, passait d'ailleurs pour l'un des mieux hantés du faubourg Saint-Germain. Mademoiselle du Rosier y fut présentée officiellement. Un certain jour, Madame de Fougerolles avertit Mademoiselle du Rosier qu'elle eut à donner des ordres pour un dîner de 10 couverts. Madame de Fougerolles avait un procès pendant devant le tribunal de Moulins et elle s'y ménageait des appuis. « Nous aurons, dit-elle, quelques personnes du pays, entre autres un membre du conseil général que vous connaissez peut-être. Il vient d'être récemment appelé à la cour des comptes. « Qui donc ?» demanda Alexandrine. « Monsieur de Mauvezin. » L'aiguille que Mademoiselle du Rosier poussait sur la batiste cassa entre ses doigts. « Enfin » murmura-t-elle. « Vous le rappelez-vous ? » reprit Madame de Fougerolles. « Un peu, » répondit Alexandrine tranquillement. Il y avait plusieurs mois qu'elle ne l'avait vu. Elle n'avait pas reçu de ses nouvelles et n'avait pas voulu en demander. Ils allaient se retrouver face à face. C'était pour elle un jour d'épreuve. Le soir, quand on annonça à M. de Mauvezin, elle posa la main sur son cœur comme pour l'interroger. Il battait un peu plus fort et un peu plus vite. Elle fronça légèrement les sourcils et regarda M. de Mauvezin dans une glace qui était en face de la porte d'entrée et qui réfléchissait son image. Elle n'éprouva à sa vue ni trouble ni émotion. « Bon, » pensa-t-elle, « c'est un effet nerveux. » M. de Mauvezin parut un peu embarrassé en la voyant. Elle se leva à demi pour répondre au salut qu'il lui fit et lui tendit la main en souriant. L'embarras d'Anatole devint de l'étonnement. Il se demanda si elle avait reçu sa lettre. « Pardonnez-moi si je ne vous ai pas répondu, » dit-elle comme si elle avait deviné sa pensée. « J'étais fort occupée quand votre lettre m'a été remise. Plus tard, j'ai attendu qu'une circonstance nous rapprochât pour m'excuser, mais vous ne m'en voulez pas. » Monsieur de Mauvezin était fort interdit. Cet accueil aimable et prévenant le gênait plus qu'un abord froid. Il s'inclina et ne put que répondre quelques mots en balbutiant. Lorsqu'il fut auprès de Madame de Fougerolles, Mademoiselle du Rosier l'examina avec ce coup d'œil implacable d'une femme qui n'aime plus. Elle éprouva alors ce sentiment de surprise qui indigne le cœur aussitôt que l'exaltation a cessé de le remplir. « C'était donc lui, » pensa-t-elle. Un observateur qui aurait pu lire dans ses yeux eût été bien étonné de voir, un moment après, avec quel sourire gracieux, Alexandrine attendit le retour de M. de Mauvezin et le provoqua en quelque sorte. Le bon goût ne suffisait pas à expliquer cet empressement. Était-ce la fierté d'une âme qui se sent au-dessus des vulgaires atteintes ou la coquetterie d'une femme qui cherche à reconquérir son empire? La fierté était en elle, on le sait, mais la coquetterie ne s'y montrait pas. Elle avait gardé sa robe de mérinos noire, son col plat et ses manchettes de toile blanche. Comme M. de Mauvezin, à court de parole, lui demandait si elle prenait sa part des plaisirs de Paris, elle leva doucement les épaules. « Moi, une vieille fille, » dit-elle. Mais cette vieille fille avait quelque chose en elle qui forçait tous les yeux à la suivre quand elle traversait un salon. Sa robe de laine écrasait les robes de velours. Madame de Fougerolles la pria de se mettre au piano. Quand elle eut joué, quelques personnes s'approchèrent pour la complimenter. Monsieur de Mauvezin lui déclara que beaucoup d'artistes fameux n'avaient pas plus de talent. « Vous avez dû beaucoup travailler depuis Moulins, » dit-il. « Elle ne fait que cela, » dit la baronne. « Le piano l'amuse. » « Sans doute. Et puis ne faut-il pas que je me crée des ressources pour l'avenir? Je m'apprête à courir le cachet. » Un grand silence se fit dans le cercle des admirateurs. Bien sûr que M. de Mauvezin ne lui supposait plus des prétentions impossibles sur son cœur, elle exécuta une variation brillante et se leva. Le mot de Mademoiselle du Rosier était comme une arme à deux tranchants. En même temps qu'elle dissipait les inquiétudes que M. de Mauvezin aurait pu concevoir, elle dépouillait Madame de Fougerolles du prestige de générosité maternelle dont on l'avait entourée et qu'elle avait complaisamment accepté. Au lieu d'une parente assurée d'un avenir brillant et déjà mise en possession de tous les biens que donne la fortune, il n'y avait plus qu'une orpheline recueillie par charité et destinée à gagner son pain à la sueur de son front. Le piédestal était brisé. Pendant toute la soirée, à laquelle un grand nombre de personnes avaient été priées, il ne fut question que de Mademoiselle du Rosier et de sa position précaire. Quelques visages laissèrent voir la surprise et l'attendrissement. Sa réponse fut répétée de bouche en bouche et colportée partout. On plaignit cette belle et intelligente fille, à qui la pauvreté était réservée et qui la portait si dignement. On lui témoigna une sympathie plus vive, et un blâme s'éleva contre Madame de Fougerolles, qui ne songeait pas à son établissement. En peu de mois, Alexandrine devint l'âme et le lien du salon de Madame de Fougerolles. On la voyait d'autant mieux qu'elle s'effaçait davantage. Son éloge était dans toutes les bouches. Il en arrivait chaque jour quelque chose aux oreilles de M. de Mauvezin. mais cette conduite si sévèrement observée entretenait une lutte sourde entre Mademoiselle du Rosier et Madame de Fougerolles. La protectrice se sentait vaincue et comme abaissée par le superbe dédain et le renoncement de celle qu'elle avait recueillie. L'irritation se faisait jour quelquefois, et on pouvait prévoir qu'il y aurait entre ces deux natures si peu semblables un choc qui serait d'autant plus violent qu'il était attendu par l'une et par l'autre, et peut-être désiré par toutes deux. Madame de Fougerolles voulait faire acte d'autorité et rétablir sa domination et ébranler. Mademoiselle du Rosier voulait maintenir sa supériorité et l'asseoir définitivement. Elles s'observaient silencieusement comme deux ennemies. Cependant, Alexandrine, qui savait déjà toute la force qu'il y a dans la patience, montrait en toute chose la même prévenance et la même égalité d'humeur. Elle dédaignait les escarmouches et tenait ses forces en réserve pour un jour de bataille. Vers la fin de la saison, après Pâques, Madame de Fougerolles, que des accès de vanité plus fréquents que d'habitude avaient poussé à certaines dépenses, voulut voir ses comptes. Il lui était arrivé ces jours-là une perte d'argent à laquelle elle avait été très sensible et son caractère s'en ressentait. Jamais elle n'avait si bien et si justement rappelé ce mot d'un métayer de la Bertoche qui disait de Madame de Fougerolles qu'elle était comme la bise, âpre et violente. À peine les livres furent-ils sur la table qu'elle se mit à les feuilleter. De petites exclamations sèches et brèves témoignaient de son humeur. Mademoiselle du Rosier avait pris un ouvrage de couture et s'était mise au coin du feu. Elle prévoyait que l'orage allait éclater. Tout à coup, Madame de Fougerolles posa l'ongle sur un article qu'on voyait au milieu d'une page, et comme elle l'avait fait une fois au sujet de la note du parfumeur, « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-elle. Mademoiselle du Rosier se pencha sur le livre. « C'est une somme de 10 francs que j'ai accordée en supplément à Catherine, » dit-elle. « La pauvre fille a été obligée de passer 2 nuits. L'ouvrage était plus considérable qu'elle ne l'avait cru d'abord. Tant pis pour elle, elle s'en était chargée pour 30 francs. On ne lui devait que 30 francs, rien de plus. J'ai cru bien faire. Vous avez eu tort. » Mademoiselle du Rosier se rassit, mais la colère de Madame de Fougerolles était éveillée. Ses doigts maigres suivaient les colonnes de chiffres. Elle grondait sourdement à chaque addition. « C'est intolérable !» s'écria-t-elle enfin. « 80 francs de bougies ! 80 francs pour une soirée ! Qu'avez-vous donc allumé, bon Dieu ?»« Mais tout, madame, les girandoles et les lustres. Qui vous en avait prié ? Mais c'est l'usage. L'usage est un sot. Vous n'allez pas m'apprendre ce qu'il faut faire, j'imagine. Mais tout va comme ça dans la maison, tout est sens dessus-dessous. C'est un affreux désordre, un gaspillage abominable. Le proverbe a raison, bon sang ne peut mentir. » À cette insulte, qui le rappelait à la fois et son père et sa ruine, le visage de Mademoiselle du Rosier se contracta et ses yeux s'animèrent d'un feu sombre. Mais Madame de Fougerolles était aveuglée par la colère. Elle supputait les chiffres un à un et récriminait sur tout. Alexandrine avait repris son ouvrage de couture et se taisait. Lorsque ce flot de paroles se fut apaisé, « Combien estimez-vous, madame, que j'ai dépensé en sus de ce qui était strictement nécessaire ? » dit-elle en relevant la tête. « Eh ! Mais si je voulais me donner la peine de compter, il y aurait bien en tout 100 francs. Et encore, je ne parle que de ce qui saute aux yeux. C'est donc 100 francs que je vous dois. » « Que vous me devez ? Le verbe est plaisant. Et avec quoi, s'il vous plaît, prétendez-vous me payer ?»« Avec mes gages. Vos gages. » Madame de Fougerolles regarda Mademoiselle du Rosier avec des yeux pleins tout ensemble de surprise et de colère. « Permettez, madame, reprit Alexandrine, n'est-il pas vrai que vous donniez 100 francs par mois à Madame Ledoux pour tenir votre maison ? J'ai trouvé la marque dans vos livres. C'est vrai. Or, je remplace Madame Ledoux. Madame Ledoux avait 100 francs par mois. Mais, étant la fille de votre sœur, vous ne me devez que la moitié des gages qu'elle recevait. C'est le bénéfice de la parenté, et je vous le laisse. 50 francs par mois pendant 6 mois, cela fait 100 écus. Vous retiendrez 100 francs que je vous dois, et me remettrez 200 francs que j'ai gagnés. Il ne m'en faudra pas tant pour retourner à Moulins. » Madame de Fougerolles se leva à demi. « Ah, vous voulez retourner à Moulins ? Et qui ferez-vous, s'il vous plaît ? J'y trouverai bien quelques amis de ma famille. Évariste et M. Deschapelles, par exemple, qui me prêteront quelque argent. Avec quoi j'établirai un magasin de lingerie sur la place de la Lys. Mon nom sera sur l'enseigne. On me connaît à Moulins, et la nièce de madame la baronne de Fougerolles ne manquera pas d'avoir la meilleure clientèle de la ville.
Vous feriez cela, vous ?
Certainement. À moins que je ne préfère entrer chez madame la marquise de Bonneval, qui est toute prête à me confier l'éducation de ses deux petites filles. Elle me l'a proposé pour le jour où je quitterai l'hôtel de madame la baronne. Ce jour est arrivé.
Madame de Fougerolles était écrasée. L'alternative de voir sa nièce lingère à Moulins avec son nom sous l'enseigne d'une boutique ou institutrice chez une dame de ses amies épouvantait sa vanité. Elle connaissait assez mademoiselle du Rosier pour être convaincue qu'elle n'hésiterait pas à le faire. Quel scandale ne serait-ce pas, et quel beau discours ne ferait-on pas sur les causes de cette séparation? On en parlerait à Paris, on en jaserait à Moulins, et madame de Fougerolles prévoyait bien que tout ce bruit ne serait pas à son avantage. Il fallait à tout prix empêcher mademoiselle du Rosier de mettre son projet à exécution, mais là était la difficulté.
« Vous me donnerez bien 8 jours, » dit-elle en s'efforçant de sourire.
« 15, si madame de Fougerolles l'exige, » répondit froidement Alexandrine.
Le dîner et la soirée se passèrent comme si aucune discussion n'avait eu lieu entre madame de Fougerolles et mademoiselle du Rosier. Elles étaient vis-à-vis l'une de l'autre comme deux armées dont un armistice a suspendu les hostilités. Quelques personnes vinrent en visite. Mademoiselle du Rosier ne laissa rien voir de la résolution qu'elle avait prise, et ce n'était pas là une des choses que madame de Fougerolles redoutait le moins. La gaieté qu'elle montra en diverses circonstances et l'aisance avec laquelle elle parlait des devoirs qu'il faudrait remplir avant de retourner à la Bertoche lui donnèrent même à penser que sa nièce avait entièrement renoncé à son projet et que les choses demeureraient dans le même état. Mais le soir, en rentrant dans son appartement, elle trouva sur la cheminée les clés de la maison que mademoiselle du Rosier avait fait remettre par une femme de chambre, et elle retomba dans toutes ses perplexités. On était alors à la fin du mois. Le lendemain et les jours suivants, madame de Fougerolles fut dérangée à toute heure par les fournisseurs, qui avaient coutume de venir à ce moment-là. Ils s'adressaient d'abord à mademoiselle du Rosier, qui les lui renvoyait tous. On sait que la baronne restait fort tard le matin dans sa chambre. Toutes ces visites l'impatientèrent d'abord, puis l'irritèrent au plus haut point. 10 jours s'étaient déjà écoulés depuis la rupture qui avait suivi leur discussion, et rien n'indiquait chez mademoiselle du Rosier d'entrer en arrangement avec sa tante. 2 fois déjà on l'avait surprise en grande conversation avec madame de Bonneval, et la baronne savait, à n'en pas douter, que sa correspondance avec Moulins était plus active que jamais. Encore 5 ou 6 jours et tout serait fini, et par une singulière coïncidence, jamais mademoiselle du Rosier ne s'était montrée si empressée dans ses lectures, si attentive dans les 1000 petits soins qui rendent un salon aimable aux visiteurs. Un matin qu'elle avait été dérangée 3 ou 4 fois de suite, madame de Fougerolles fit prier en toute hâte mademoiselle du Rosier de monter chez elle. Les rideaux n'étaient pas encore tirés.
« Eh bon Dieu, petite ! » s'écria-t-elle en lui tendant les clés. « Ne saurais-tu me laisser dormir en paix ? Prends-moi ça, et fais-en tout ce que tu voudras. »
« Tout ? » répondit Alexandrine en lui jetant un regard clair.
« Eh oui, tais-tu ! »
répondit madame de Fougerolles, qui déjà posait la tête sur l'oreiller. Mademoiselle du Rosier emporta les clés. C'était la première fois que madame de Fougerolles la tutoyait. Alexandrine comprit que la victoire était complète, et de ce moment il ne fut plus question de départ et de séparation. Monsieur de Mauvezin n'avait pas cessé de fréquenter l'hôtel de madame de Fougerolles depuis le dîner où il avait revu mademoiselle du Rosier. Ce silence profond sur le passé, cet accueil aimable qu'elle lui faisait toujours, ce détachement qu'elle montrait de toute chose, l'étonnait au plus haut point. Peut-être même éprouvait-il un certain dépit de voir si peu de douleur après une rupture si soudaine. De la colère, ou tout au moins de la froideur, aurait indiqué quelques regrets. Cette grâce et ce sourire prouvait qu'elle l'avait bien peu aimé, et la fatuité de monsieur de Mauvezin s'accommodait mal de cette indifférence. Il était un peu comme certaines femmes qui veulent bien perdre la mémoire, mais qui ne permettent pas qu'on les oublie. La dignité de maintien de mademoiselle du Rosier, qui forçait tous les yeux à se tourner vers elle, était encore une supériorité qui frappait monsieur de Mauvezin. À Moulins, il n'avait vu que l'héritière. À Paris,
il découvrait la femme, une femme aimable, et que son esprit distingué portait sans peine au premier rang. Il s'habitua tout doucement à la rechercher, à causer avec elle, à lui marquer une préférence toute particulière. Et Mademoiselle du Rosier le laissa s'engager dans une voie où elle ne faisait rien pour le pousser, mais où elle se promettait bien de le retenir. À l'époque où Mademoiselle du Rosier s'était rendue au château de la Bertoche, elle avait pris l'habitude d'écrire sur un cahier, et presque chaque soir, les petits faits qui avaient laissé leurs traces dans son esprit. Elle se confessait elle-même, en quelque sorte, la plume à la main. Quelques lignes de ce journal donneront une idée de ce qu'elle éprouvait au moment où, maîtresse de l'hôtel à côté de Madame de Fougerolles, M. de Mauvezin l'entourait de soins nouveaux. Mardi 11 avril. M. de Mauvezin est venu hier, comme nous sortions de table. La soirée était tiède. Il nous a proposé de faire un tour dans le jardin. Ma tante, qui n'aime guère à marcher, s'est assise sur un banc au pied d'un marronnier déjà vert. Nous sommes restés seuls, M. de Mauvezin et moi. Il m'a pris le bras et m'a entraîné vers une pièce d'eau. Il m'a semblé qu'il pressait mon bras en marchant. Cet homme n'a pas d'entrailles. Il m'a demandé si Louise ne se mariait pas. Pas plus que moi, lui ai-je répondu. Oh, si vous vouliez, m'a-t-il dit. La phrase était à la fois sotte et menteuse. Je l'ai regardé et il n'a pas baissé les yeux. Il y a de l'audace à pousser si loin l'oubli du passé. Cela devient presque de l'héroïsme. Si M. de Mauvezin voyait alors ce qui se passe dans mon cœur, il aurait peur. Comment le verrait-il? Je ne laisse plus rien paraître sur mon visage. Je démêle à peu près les motifs qui font agir cet homme. Mais c'est lui qui mordra l'hameçon qu'il me tend. Tandis que nous nous promenions, n'a-t-il pas osé me parler de Moulin et du temps où nous nous rencontrions au bal? Le courage n'irait pas si loin si la bêtise ne lui venait en aide. Vendredi 14 avril. Il y a des heures où mon cœur se gonfle tant qu'il pense éclater. Ce matin, à propos d'un grand mariage dont on s'occupe beaucoup dans notre monde, on a parlé de celui de M. de Mauvezin. Je me suis regardé dans une glace qui était en face de moi. Sauf un peu de pâleur, on ne voyait rien. « Et quelle est la femme qu'il épouse ?» a demandé quelqu'un. « Je ne sais pas quelle est, » a répondu ma tante. « Mais je sais ce qu'elle a. 100 000 écus le jour de la signature du contrat et le double plus tard. Si elle n'avait rien, elle n'épouserait rien. »« Comme moi, » ai-je dit. Ma tante s'est levée. Après le déjeuner, elle m'a prié de me mettre au piano. J'ai joué pendant 2 heures. Jamais mes doigts n'ont été plus agiles, mais je ne m'entendais pas. Ma tante m'a complimenté. Quand je me suis trouvé seul chez moi, j'ai failli crier. J'ai tout fait. Tout perdre en un jour. J'ai trempé mon visage et mes mains dans de l'eau froide pour calmer cette fièvre. Rentrée au salon, Madame de Fougerolles m'a demandé d'écrire à M. de Mauvezin pour l'engager à dîner. « Nous le taquinerons, » m'a-t-elle dit. J'écris et signé. La plume ne tremblait pas, mais quel travail acharné sur moi-même et quels efforts. Samedi 15 avril. Monsieur de Mauvezin est venu. L'histoire de ce mariage n'était qu'un bruit. La personne dont il était question n'a, tout compte fait, que 250 000 francs de dot. Le reste n'est pas sûr. Il a parlé de cette rupture comme il parlait de l'opéra nouveau, mais en forme de péroraison. « Ah, si l'on pouvait écouter son cœur !» a-t-il ajouté, et il m'a regardé. J'ai eu la force de le regarder aussi. On ne sait pas quelle puissance il y a dans le verbe « vouloir ». J'avais le cœur sur les lèvres, et j'ai souri comme une ingénue de la comédie française. Vendredi 21 avril. J'ai reçu hier une lettre de Louise. Quelle âme blanche! Je n'ai pu la lire sans penser à Évariste. Lui aussi m'a écrit l'autre jour. Ils m'écrivent souvent tous deux et je trouve une douceur infinie dans cette correspondance qui me rapproche de ce que j'aime et me rappelle d'autres temps. Évariste attend mon retour à la Bertoche, après quoi il partira pour l'Espagne. Il ne peut s'y décider avant de m'avoir revu. Il n'y a pas un mot d'amour dans sa lettre et l'amour transpire à chaque ligne. J'ai senti que mes yeux se mouillaient en la lisant et par un mouvement involontaire je l'ai porté à mes lèvres. J'ai rougi et j'étais seul. si je m'étais trompé. Mais non, on n'accepte pas de telles épreuves quand on n'est pas poussé par une implacable volonté.
Jeudi 27 avril. Monsieur de Mauvezin, qui a eu avis de notre prochain départ, est venu pour nous faire ses adieux. Il demandera un congé pour voyager cet été.
Si vous le permettiez, m'a-t-il dit, je passerai par la Bertoche.
Le château est à Madame de Fougerolles, lui ai-je répondu.
Je ne doute pas qu'elle ne soit charmée de recevoir votre visite.
C'est vous que je veux revoir. C'est donc à vous de m'accorder cette permission, a-t-il ajouté.
Cette conversation m'a rappelé celle que nous avions eue au bal à Moulins. J'ai eu froid dans le dos.
Monsieur de Mauvezin a donc bien peu de mémoire.
Je me suis incliné sans répondre.
Eh bien, a-t-il repris,
j'irai.
Oh, qu'il vienne, qu'il vienne.
Mardi 2 mai.
Demain nous partons. Dans 2 jours j'embrasserai Louise.
Ah, je ne croyais pas que mon cœur eût battre si fort.
Chère sœur, sa vue me rafraîchira. Je verrai aussi Évariste.
Avec quelle joie je sentirai ma main dans la sienne.
Évariste et Louise, les seuls êtres vers lesquels ma pensée se repose sans trouble.
Vous qui m'êtes si cher, à demain.